Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Et bonjour et bienvenue à tous dans Bord de Seine. Et aujourd'hui, on est avec Drake Manaquette. Bonjour Drake.
Bonjour.
Alors Drake Manaquette, tu es auteur, tu as écrit plusieurs livres, je n'ai pas le compte exact en tête, dont un livre dont on va parler aujourd'hui qui s'appelle Tenan. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Alors Tenan, c'est une saga de fantasy fantastique dans le style un peu Harry Potter, Monde de Narnia, Quête de Willan, ou adapté pour du tout public, où on suit l'histoire d'une jeune fille qui va se retrouver dans un autre monde, avec toute une histoire de science qui ressemble à de la fantasy, qui se passe sur des pentacles que tu dessines, avec des effets élémentaires qui se créent, des dragons, des choses particulières, un lien bien spécifique qu'on appelle le lien Tenan, qui est le titre de tous les bouquins. C'est une saga de 6 tomes qui est terminée depuis très récemment, et c'est ma première saga.
Et alors, d'où est venue l'idée du lien Tenan, qui est effectivement très important dans le livre et même dans toute la saga?
Beaucoup d'inspiration par rapport à beaucoup de choses que j'ai lues. On peut se reporter à soit Eragon, qui a le lien avec le héros principal, a un lien justement avec son dragon particulier, qui a un lien qui ressemble beaucoup au lien Tenan, ou mieux encore, la croisée des mondes, la boussole d'or de Paul Ullman, qui fait énormément penser à cela aussi.
Alors, il y a une vibe très qui fait beaucoup penser au début de la quête des Willan. Au tout début, ça fait partie de tes inspirations, il me semble.
Complètement. Je suis un grand fan de Pierre Bottero et de la quête des Willan. Et c'est fait partie de ces auteurs qui m'a donné envie d'écrire et de continuer.
Combien de temps a pris le projet pour l'instant du tome 1, à peu près? Et même combien depuis la naissance du projet, de ton idée, jusqu'à la publication du volume?
C'était au lycée, c'était en cours de physique-chimie. Je m'en souviens, je ne comprenais rien et j'ai eu envie d'écrire autre chose. J'étais beaucoup plus intéressé par tout ce qui était littéraire. Et j'ai beaucoup apprécié, donc du coup, quand je ne comprenais pas le cours, d'écrire dans mon coin sans me faire chier personne. Et c'est là où j'ai commencé à imaginer cette histoire, ou en tout cas à m'y inspirer, en tout cas à commencer à écrire l'univers. Et j'ai commencé à écrire dans un gros cahier, que j'ai toujours d'ailleurs. Un jour, au CDI, mon documentaliste se demandait qu'est-ce que je faisais, parce qu'il ne voyait pas beaucoup d'élèves se mettre à noircir les cahiers avec un crayon ou un stylo. Et il a été très curieux de ce que je faisais, jusqu'à ce que je lui dise ce que je fais, et il a lu pratiquement tous mes chapitres de mes bouquins avec lui devant, et qu'il appréciait vraiment ce que je faisais. Ça m'a poussé à continuer et à me dire peut-être que c'est ce que j'avais envie de faire au final de ma vie.
Et c'est ce que tu fais de ta vie aujourd'hui?
Oui, c'est ce que je fais de ma vie.
T'arrives à en vivre. Qu'a été le plus facile dans ce projet?
Le plus quoi?
Le plus facile.
Le plus facile dans le projet?
Ouais.
Alors, bonne question. Qu'est-ce qui est facile? Pour moi, le développement de l'histoire n'est pas le plus compliqué en soi. Je suis un gros passionné de création d'univers, donc je l'ai fait parce que je l'aimais, plus que comme une corvée, comme un travail, donc c'était pas vraiment quelque chose que je peux dire de compliqué ou en tout cas difficile. Est-ce que pour autant c'est facile? Je pense pas, mais...
Mais ça t'est venu naturellement.
C'est ça, ouais.
Et qu'est-ce qui a été le plus difficile?
Le plus difficile, et c'est toujours la même chose, c'est se faire connaître. C'est-à-dire qu'on a sorti plusieurs romans, on a notre petite communauté, on monte toujours, mais on est dans un milieu extrêmement concurrentiel et c'est pas toujours facile de se mettre en avant par rapport au livre. Et c'est toujours le plus difficile et le plus complexe jusqu'à maintenant.
Alors, je me souviens plus exactement du nom de la maison d'édition auquel tu es édité, mais pourquoi l'as-tu choisi?
Alexandra Saint-Pry, c'est la première qui m'a répondu, disons à temps. Elle m'a fait un contrat qui me plaisait, c'est base, et du coup j'ai accepté. C'était aussi un peu mon premier livre, donc j'ai pas cherché plus loin. Ensuite, ils ont voulu me garder pour la suite de mes bouquins, donc ils m'ont fait des contrats beaucoup plus alléchants. Et du coup, je suis resté avec eux. La condition était de terminer les 6 premiers tomes, la première saga chez eux. Ce qui a été fait, et là, maintenant, je commence une nouvelle saga dans une autre édition.
Ok. Alors, la couve est un petit peu... elle tease un petit peu. On y voit donc un étrange pendentif avec deux silhouettes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ?
Je joue beaucoup sur le symbolisme. La plupart des couvertures se verront comme ça, du tome 1 au tome 6. Ça prend en compte un élément très particulier avec le titre que l'on comprend beaucoup mieux lorsqu'on a terminé le bouquin. Le titre, le Coédoricalque, donc le tome 1, met effectivement en avant énormément le Coédoricalque qui est l'objet bien spécifique que détient l'héroïne et qui aurait un rapport et toute une histoire bien plus profonde qu'on pourrait le croire et qu'on pourrait le penser. Et les deux silhouettes à l'intérieur, on pourrait faire penser aux héros ou héroïnes qui commenceront véritablement et qui tourneront autour de cette histoire.
Et alors, d'où est venue l'idée de cette couverture ?
J'ai eu un illustrateur avec qui j'ai travaillé, avec où on s'est mis d'accord comment ça voulait amener par rapport à ce sujet. Et du coup, sur ces plusieurs esquisses qu'il m'a proposées, c'était celle qui m'avait tenu le plus pour commencer.
Alors, il y a beaucoup de personnages dans le tome 1 qui sont tous hauts en couleur. Quel est le personnage que tu as le plus aimé créer ?
Pour le tome 1, c'est un des personnages qu'on voit vers les deuxièmes parties du bouquin. Il s'appelle Oke, qui est on appelle ça un Taolan, c'est des hommes bêtes loups, en quelque sorte. Qui est de nature extrêmement bourrin, qui peut se montrer très footballer, avec un côté un peu agressif, et qui finalement est décrit ou on dépeint comme un père aimant qui cherche juste à protéger le fils adoptif qu'il a trouvé et qui a changé au tout sa personnalité.
Alors, vas-y.
Voilà. C'est tout un rapport avec une évolution de personnage que j'aimais, qu'on te décrivait d'une manière et que finalement, lorsqu'on le voit, il est d'une toute autre et il a un côté, dans son côté bourrin et extrêmement, on va dire, premier degré, un côté extrêmement attachant. Et ça a été pendant très longtemps un de mes personnages préférés.
Alors, on va en parler des Taolan. Certains pourraient dire inspiration loup-garou. Moi, j'y vois une inspiration furie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est les furies ? Et éclairer ma lanterne.
Les furies, si je dis pas de conneries, c'est des gens qui aiment l'anthropomorphisme, donc tout ce qui est homme, bête ou homme autre, avec des caractéristiques souvent d'animaux, le plus souvent, et ils en ont fait une communauté, si je peux appeler ça comme ça.
D'accord. Et c'est ça qui t'a inspiré, du coup, les Taolan, ou pas ?
Non, pas spécifiquement. Ah. C'est pas le côté furie, c'est... bien que l'anthropomorphisme, j'aime beaucoup, bon, ça je ne peux pas me le cacher, mais je dirais que c'est plus, effectivement, plus... ce qui m'a inspiré les Taolan, c'est un livre que je lisais, d'une BD, qui s'appelle Freak Squill, qui est française, oui. Qui est allemand, et l'un des personnages principaux, c'est un énorme loup-garou qu'on appelle Ombre de Loup, et j'adorais ce personnage qui était justement à l'antipode de sa carrure, qui était vraiment... c'était une armoire à glace, véritablement, et en fait, c'était quelqu'un de très gentil, qui collectionnait des peluches, qui collectionnait des trucs, qui osait pas faire du mal sans faire exprès, de manière qui était toujours faire très attention, avec une grosse timidité derrière. Et j'avais beaucoup apprécié ce personnage, et je me suis dit, j'aimerais bien faire un peuple qui a cette carrure, qui a cette sensation, et qui a donné véritablement ce côté loup, en quelque sorte. Et c'est ça qui m'a donné l'idée des Taolan.
Alors, les gens de... Parce que du coup, l'héroïne est propulsée, on va entre guillemets spoiler, sur une autre planète qui s'appelle Myst.
Ouais.
Et ils ont leur propre langage. Alors, comment est-ce que tu t'es... De quoi est-ce que tu t'es inspiré pour créer, en fait, ce langage ?
L'inspiration vient de là, d'un Disney, de le film L'Atlantide, tout simplement, où j'ai beaucoup aimé le concept du fait qu'il y ait une langue, on va dire, parce que tout a un rapport avec l'Atlantide, donc du coup l'Atlante, et qu'il y ait une langue qui est, on va dire, originelle, et que cette langue originelle serait là avant le concept évidemment de Babylone, qui, on va dire, aurait donné une multitude de langues. Cette langue serait celle du début et que qui permettrait à n'importe qui de la comprendre assez facilement et ensuite de la parler. Et il y a une côté facilité aussi scénaristique pour comment ça se fait qu'il arrive à se comprendre et arrive aussi à se discuter alors qu'ils sont sur une autre planète. Là, c'est juste parce qu'ils avaient, que eux qui n'ont pas eu le concept, on va dire, de Babylone, ont gardé cette langue originelle et donc du coup savent parler toutes les langues qui ont lien avec elle.
Alors, il y a donc c'est une planète où il y a plusieurs peuples qui ouais. l'habitent. Si tu pouvais t'incarner dans l'un de ces peuples, lequel choisirais-tu ?
Alors, c'est une très bonne question. Chacun d'eux a son a un côté que je trouve très attirant. Le Taolan, avec leur manière de penser et tout ce qui a un rapport avec le côté un peu amérindien, leur motif de pensée, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'humain avec l'idée des Julien Tenan qui l'accompagne jusqu'à la fin, j'aime beaucoup aussi. Les sirènes, le côté un peu voix enchanteresse et qui te touche au propre mental et au cœur, pourquoi pas. Les Fairies, c'est mignon aussi, c'est les petits trucs qui te volent tête et qui adore tout ce qui a un rapport avec la nature. Donc, j'ai pas de préférence particulière. Je les trouve chacun attachant à leur manière et c'est ce qui m'attire. Être déjà juste dans un univers que j'aurais créé, ce serait déjà pas mal à voir ensuite.
D'accord. Alors, avant de clôturer l'émission avec tes projets futurs, on va écouter une musique que tu as choisie, qui est Magic de Coldplay. Pourquoi avoir fait ce choix ?
Parce que je l'aime bien. Parce que ça passe bien, on est dans un univers tout ce qui est un rapport de fantasy magique. Et Coldplay, juste la chanson Magic, qui te dit juste d'appeler la magie. C'est très cool, quoi.
Eh ben, on écoute.
Anybody? yes I do.
On est de retour sur Bord de Seine. Alors, là, tu as terminé ta saga Tenan. Tu en commences une autre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Alors, l'autre s'appelle Malaria Colores. C'est une fantasy. Là, on parle plus de la fantasy aventure avec une pointe de steampunk à l'intérieur. Où on suit l'histoire. Comment dire? Où on est. Là, on vise un public un peu plus adulte. Où on se retrouve en pleine guerre froide dans notre monde à nous, où il y a eu une maladie particulière qui a touché 100% de la population, qui change de manière éternelle leur couleur de peau et qui donne à toutes les personnes dans ce monde des couleurs de peau sur une manière très définie. On va du bleu au jaune à l'orange et chaque couleur de peau qui avant était une maladie mortelle, on a constaté que bien plus tard, sur la nouvelle génération, elle donnait des compétences et des capacités spécifiques selon la couleur de la peau. Le vert, la régénération, par exemple, le bleu, la métamorphose, l'orange, la durcissement de l'épiderme, il y a tout un système qui a été mis là-dessus. Et cela amène à un moment où tout est à refaire, car la population a énormément changé, le mode de vie a énormément changé, notamment grâce au progrès du steampunk qui a tout un rapport. Et on suit l'histoire du coup d'un héros qui s'appelle Nikolai Baskerville, qui est un agent double, qui travaille pour deux camps qui sont Est et Ouest, qui sont en train de grignoter l'Europe, pour essayer d'atteindre la Suisse, car il détiendrait de la couleur de peau qui donnerait le secret de la magie. Et on suit d'accord ces aventures histoires où on commence par une course-poursuite entre lui qui arrive en France et qui essaie d'atteindre la Suisse pour essayer de enfin vivre une vie, on va dire, tranquille, sans qu'il ait tous ses soucis. Mais même en Suisse, il verra qu'il y a d'autres soucis qui vont lui tomber dessus.
Est-ce que le tome 1 est déjà sorti?
Oui, le tome 1 est déjà sorti, je suis sur le tome 2.
Alors, où est-ce qu'on peut suivre ton actualité?
Sur Instagram ou Facebook, Drake Manaquette est facilement trouvable. Et voilà. C'est là où c'est toutes les choses.
Dernière question pour clôturer. Est-ce qu'il y a un auteur avec qui tu aimerais faire une coécriture? On va dire toute époque confondue. S'il y avait, mettons, on arrive avec une baguette magique. Un génie arrive et te dit, tu peux faire une coécriture avec n'importe quel auteur, genre passé, présent, futur. Qui est-ce que tu choisirais?
Waouh, je ne sais pas, il y en a plus. Pierre Bottero, bien sûr. Pierre Bottero, qui d'autre encore? Ouais, on dirait, restons sur Pierre Bottero. C'est lui qui m'a donné envie d'écrire, restons sur lui.
D'accord. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Drake, d'être venu nous parler un peu de ton livre. Qu'on peut retrouver aux éditions, rappelle-moi.
Alors, pour la saga de Fantasy Tenan, c'est sur l'édition Alexandra de Saint-Prix. Ils sont aussi facilement trouvables sur Internet. Hein, la plupart des sites l'ont. Il suffit de marquer Tenan et on le trouve facilement. Et c'est pareil pour Malaria Colores. Et là, c'est l'édition Corde de Lune.
Eh bien, on se retrouvera pour parler de Mana Colores.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Drake. Vous pourrez écouter cette émission sur le site Espro Occitanie ainsi que sur l'application. Merci de votre écoute. On vous souhaite une très très belle journée. Et on vous dit à très bientôt pour un bord de Seine. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world.